e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp,
une agence en pleine transition éthique.
Tous les trois mois, on explore une nouvelle initiative éthique que l'on veut mettre en place dans l'agence. L'occasion de sensibiliser et de se former pour accélérer notre transition éthique. Et quoi de mieux pour se former que de faire intervenir des experts et expertes passionnés par ces différents sujets? Vous aussi, vous voulez rendre vos pratiques plus éthiques? Alors plongez avec nous dans l'enquête. On vous embarque dans nos rencontres et nos échanges à travers une série de podcasts qui vous accompagnent au cœur de nos enjeux éthiques. De quoi vous inspirer avec des solutions concrètes pour votre activité professionnelle.
Ce trimestre, on plonge dans la dimension éco-responsable du numérique éthique. Pollution numérique, web éco-responsable, sobriété numérique, éco-conception. Bref, on mène l'enquête pendant 3 mois pour creuser et approfondir les différents enjeux sur le sujet. Quels sont les impacts du numérique sur l'environnement? Où en est le cadre légal et quels sont les enjeux politiques? Comment pouvez-vous agir à un niveau personnel et professionnel? Vous allez découvrir tout ça dans cette série de 4 épisodes. On espère qu'elle vous sera utile pour rendre vos pratiques professionnelles et personnelles plus responsables. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, on tient à clarifier un point. La différence entre responsable et éco-responsable. La responsabilité dans ce contexte englobe non seulement l'aspect environnemental, mais aussi les aspects sociétaux et économiques. Alors que l'éco-responsabilité est exclusivement focalisée sur l'environnement. Dans cette série, on se concentre donc uniquement sur l'impact environnemental du numérique. L'idée étant de traiter une dimension par série pour dresser un portrait du numérique responsable au fil de nos enquêtes. Après avoir abordé de grands concepts comme la sobriété numérique et passé en revue le cadre légal autour du numérique éco-responsable, dans cet épisode, place à l'action. On passe à encore plus de concret. Les actions que l'on peut mettre en place à notre échelle en tant qu'utilisateur et utilisatrice de services numériques. Et ce, dès à présent. Parce qu'on ne peut plus attendre et c'est maintenant qu'il faut agir. Selon le 6e rapport du GIEC, paru cette année 2022, il nous reste 3 ans pour diminuer drastiquement notre empreinte carbone. Ça veut dire revoir nos comportements et effectuer des changements de fond. Vu l'impact du numérique sur notre empreinte environnementale, autant se pencher de près sur le sujet. Nous allons donc faire le point sur toutes les bonnes pratiques que vous pouvez adopter dans votre usage du numérique. Et surtout, on va examiner le cas des terminaux. Si vous suivez la série depuis le début, vous savez que c'est ce qui pollue le plus au niveau du secteur du numérique. Pour cet épisode, nous sommes accompagnés de Tristan Ito, animateur du podcast L'Octet Vert et entrepreneur. Christophe Clouzot, expert Green UX et éco-conception numérique chez Temesis. Margot Chailloux, cofondatrice et CEO de Improved Impact. Ferréol Lespinasse, conseillère en sobriété éditoriale, refonte de site internet, rédaction et production de contenu. Agnès Crépet, Head of Software Longevity and IT pour Fairphone. Anne Rabot, experte Green IT, directrice RSE et relations clients de Resilio. Richard Hanna, chargé de mission numérique éco-responsable à la DINUM et co-animateur technologie. Florian Doyen, fondateur de Challenge for Earth, animateur fresque du climat et conseiller environnemental. Et enfin, Muriel Timsit, consultante indépendante en sobriété et responsabilité numérique. C'est parti pour un épisode rempli de bonnes pratiques. Vous allez le voir, il y a de quoi faire. Pour bien commencer, dites-vous que toutes vos actions ont un impact, comme nous le rappelle Margot.
Chaque utilisateur peut avoir un impact. Moi, j'ai une question, du coup, pour vous. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le streaming et l'Espagne? Je vous donne tout de suite la réponse. Ils produisent autant de CO2. Donc, toutes les vidéos en streaming qu'on va regarder produisent autant de CO2 que l'Espagne.
On a donc demandé à nos intervenants et intervenantes des conseils pour vous aider à passer à l'action. Des pratiques concrètes pour adapter vos comportements à l'urgence climatique et pour faire la différence en tant qu'individu. Christophe nous a dressé une liste non exhaustive. Il nous a aussi bien fait comprendre que prendre soin de ses appareils est la meilleure marche à suivre.
Ouais, si j'en avais une à donner, c'est clairement chouchouter vos appareils. vous les mettez dans du coton, dans du velours, je sais pas, vous les mettez sous verre, vous leur faites des bisous, vous les caressez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut chouchouter les appareils, puisque comme l'impact, il est du côté de la fabrication, à partir du moment où l'appareil, vous l'avez en main, 80% de l'impact a été fait. Donc plus on prolonge sa vie, plus on prolonge la durée de vie de l'appareil, plus on atténuera cet impact. Voilà, s'il y en a un vraiment à retenir, c'est ça. Après, sur les usages, il y a plein de choses à dire. C'est réduire le temps passé, c'est envoyer des mails, par exemple, juste aux bonnes personnes, plutôt que de mettre à chaque fois toute sa hiérarchie en copie, parce que ça fait autant de destinataires. C'est peut-être arrêter d'écouter de la musique en vidéo. Beaucoup de gens écoutent de la vidéo. Alors, j'empêche pas d'écouter de la vidéo, ça m'arrive aussi d'aller sur YouTube pour retrouver un clip et de l'écouter alors que je fais autre chose. Mais il y a peut-être moyen de l'écouter aussi en bas débit. Par exemple, vous n'aurez aucune différence de qualité sonore à écouter de la vidéo en 160p plutôt que 1080. Vous ne verrez aucune différence. C'est réfléchir surtout avant d'acheter, puisqu'on parle d'impact sur la fabrication, avant d'acheter du matériel neuf ou un appareil qui vous fait croire qu'il y a plus d'appareils photo et qu'il est meilleur la nuit comparé à votre édition qu'à un an. Bah, juste réfléchir, être plus responsable avant d'acheter tous ces appareils-là. Et puis, penser seconde vie sur les équipements pour pouvoir le transmettre, voire acheter de seconde vie. Tout à fait possible. Moi, je sais que j'ai un équipement aujourd'hui qui date de 2012, donc c'est un MacBook Pro de 2012. J'ai changé le disque dur, j'ai changé la RAM, j'ai changé parfois des nappes à l'intérieur, mais il est toujours là. Donc, pour le coup, c'est tout à fait possible d'avoir un matériel entre guillemets un peu vieillissant, mais toujours à l'ordre du jour. Et puis, il y a quand même une réflexion à mener, ça c'est un petit peu plus délicat, mais tout ce qui est lié à l'utilisation du cloud. On sait que quand on met quelque chose sur le cloud, c'est très pratique, on peut retrouver n'importe où, au bout de la planète, etc. Mais les services de cloud, ce n'est pas magique. En fait, c'est les disques durs mis à votre disposition et c'est mirroré, c'est dupliqué. On estime entre 3 et 10 fois selon les services. Donc, l'idée, pas d'interdire l'utilisation du cloud. Nous, typiquement, chez Tenesis, on est en télétravail. On utilise le cloud tout le temps et à titre personnel, parce qu'on garde aussi mes données type photo en ligne, mais de ne pas le faire partout. Plutôt de manière raisonnée, modérée, à un endroit et de manière maîtrisée. Donc voilà, c'est tout ça. C'est vraiment lié à l'utilisation globale du numérique.
Ferréol nous partage les usages qu'elle met en place et elle n'y va pas par quatre chemins.
Déjà, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone et ainsi que mon adresse mail pro. Déjà, ça permet d'avoir un usage moindre en fait du téléphone. Ensuite, effectivement, je pense avoir aussi toute une réflexion effectivement sur qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, est-ce que je vais sur Google ou pas, ou j'y vais vraiment en dernier recours quand j'ai pas le choix. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en place avec toute la problématique que ça peut entraîner. Arrêter d'utiliser les produits Google, par exemple, pour l'agenda ou pour les contacts. Du coup, on est dans quelque chose de beaucoup moins aisé à utiliser. Par contre, au moins, je suis sûre que mes contacts ne sont pas récupérés. Et ça, je trouve ça très chouette. Je pense qu'il faut donc être convaincu pour adopter de telles pratiques. Et puis, je peux donner aussi un exemple plus professionnel, mais c'est je dirais aussi réfléchir avant d'envoyer des contenus sur les réseaux sociaux complètement débiles, type vidéo de chat. En fait, ça participe à la charge mentale et au brouillage de l'esprit. Et je pense qu'en fait, il faut sortir de cette civilisation du « je tout le temps, partout, je rigole et j'envoie des conneries à tout le monde ». Je ne suis pas sûre que ça fasse avancer les choses pour tout le monde et qu'il y ait vraiment une gratification qui soit telle que ça mérite de brouiller les esprits et de polluer les réseaux.
Pour ce qui est de votre usage même du numérique, Margot vous explique comment optimiser au maximum vos pratiques pour réduire votre pollution numérique.
Du coup, quelles sont nos actions à nous, citoyens? Ça va être de regarder nos séries en streaming, au lieu de les télécharger en ultra haute qualité, peut-être réduire la qualité de téléchargement, qui permet vraiment de réduire l'impact. Et très sincèrement, à l'œil, on ne voit pas forcément en plus la différence sur nos écrans. Quand on est sur nos smartphones, pour tout ce qui va être visio et communication ou même regarder une vidéo, il vaut mieux le faire en Wi-Fi qu'en 4G. C'est un réseau qui consomme moins. Sur toute la partie boîte mail, les mails sont stockés. Du coup, sur le serveur qui l'a envoyé, sur le serveur qui le reçoit, donc c'est des mails qui sont stockés plusieurs fois. Et quand on envoie des mails avec des pièces jointes très lourdes et qu'on l'envoie à 20 personnes, il faut savoir que du coup, ce message-là va être stocké à 20 endroits différents. Donc, pensez à supprimer, faire un peu de ménage de temps en temps dans ces boîtes mail, supprimer les pièces jointes si on n'en a plus l'utilité, ne pas renvoyer des mails à la terre entière quand on veut s'adresser qu'à une seule personne. Peut-être aussi mettre des liens de téléchargement de fichiers que la personne aille chercher uniquement si elle en a besoin. Puis se désinscrire des newsletters qu'on ne lit plus et qui après arrivent dans nos spams. Parce que même si elles arrivent dans nos spams, bah, ça consomme quand même beaucoup. On peut en deux clics se désinscrire et ça permet effectivement de gagner en stockage de données et donc en empreinte environnementale du numérique.
Pour Tristan, il s'agit d'aller au-delà de son confort personnel et penser à la planète.
En tant qu'individu, et je ne dis pas que c'est facile, hein, ça c'est le geek que je suis depuis une éternité qui vous parle, en fait, le plus important, c'est d'arrêter d'acheter du matériel pour se faire plaisir. Et ce n'est pas évident, hein, parce que évidemment, les fabricants redoublent d'efforts pour nous faire baver sur telle ou telle fonctionnalité qui, prétendument, va nous changer la vie, va nous rendre super cool. Ben, voilà, moi, je n'ai pas de télé 4K. Ma télé, elle doit avoir pas loin de 15 ans. Mon smartphone, eh ben, je l'ai acheté d'occasion et ensuite je l'ai donné à mon fils. Et puis j'en ai racheté un neuf, mais j'en prends grand soin. Il a une coque. J'espère le garder au moins 6 ans et changer sa batterie quand c'est nécessaire. Et vraiment, ouais, c'est ça. Essayez de ne pas changer de matos pour que le matos qui précédent il fonctionne encore et finisse dans un tiroir. Parce que les émissions de gaz à effet de serre de ce matériel, elles ont été émises lors de la fabrication hein, et assez peu lors de l'utilisation. Donc, il faut faire durer ce matériel le plus longtemps possible. On peut aussi acheter en reconditionné, c'est important. Je pense aussi à des petites astuces, par exemple, je sais que c'est le cas sur l'iPhone. Une batterie, quand c'est chargé à fond, ça fatigue. Et donc, ce que fait l'iPhone, et c'est une astuce qui est assez intéressante, c'est que quand vous le mettez à recharger la nuit, il se charge jusqu'à 80%, et donc là, ça va, c'est pas toxique pour lui, et il repère quand vous le débranchez le matin, à quelle heure vous avez l'habitude de le débrancher pour partir bosser. Juste avant ce moment-là, il se charge à 100%. Donc, il va rester chargé à 100% le moins longtemps possible. Alors que les anciens smartphones, eux, ils avaient tendance à, dès que vous le branchez le soir vers 23h, eh bien, ils se chargeaient à fond. Et à 1h du matin, ils étaient chargés à bloc et ils passaient toute la nuit chargés à bloc jusqu'au départ de chez vous vers 8h. Donc, prendre l'habitude de charger son smartphone à la même heure, comme ça, le système, il apprend et il respecte sa batterie, il ménage sa batterie.
Finalement, tout cela revient à se poser les bonnes questions. De quoi avons-nous réellement besoin ? C'est la question qu'Anne se pose pour prendre ses décisions.
Déjà, c'est d'économiser le plus possible les ressources, donc les matériaux, les minéraux, métaux extraits. Donc, il faut moins fabriquer. Et donc, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est faire durer son smartphone, faire durer son ordinateur plus longtemps. Se demander si le dernier objet connecté à la mode est vraiment nécessaire. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des volets connectés, une caméra connectée, une alarme connectée, etc. chez soi, ou un assistant personnel pour demander la météo. Donc il y a tous ces usages à arbitrer à titre individuel et puis voilà, faire attention à son matériel.
Il y a de quoi faire. Évidemment, il s'agit d'une liste non exhaustive, il existe en effet des tonnes de bonnes pratiques à mettre en place. On vous en partage d'autres dans l'article qui accompagne cet épisode, et puis vous en retrouverez encore plus en suivant nos intervenants et intervenantes sur leur site et réseaux sociaux. On se rend compte que tout le monde s'entend sur l'ampleur de l'impact des terminaux sur l'empreinte carbone numérique. On en parle depuis le premier épisode de cette série. C'est de loin ce qui pollue le plus dans le secteur numérique. S'il y a bien un comportement que vous pouvez changer pour avoir un maximum d'impact, c'est par rapport au choix et au renouvellement de vos terminaux. Pour comprendre plus en profondeur l'impact catastrophique des terminaux sur le monde, on a laissé la parole à Tristan.
Il y a une étude très intéressante qui a été publiée par greenit.fr en février 2021. Cette étude s'appelle INUM 2020. Elle étudie les impacts du numérique en France en 2020. Alors pourquoi j'insiste sur la notion du fait que c'est en France ? C'est que la France a ceci de particulier, que son électricité est très largement décarboné. C'est-à-dire que produire de l'électricité en France, via le nucléaire essentiellement, mais aussi avec de l'hydraulique, les barrages, ce qu'on appelle l'hydroélectricité, eh bien c'est très peu carboné. C'est-à-dire qu'en fait, ça émet très peu de dioxyde de carbone, donc ça émet très peu de gaz à effet de serre, et donc ça contribue très peu à la problématique du changement climatique. Mais la France est une exception, en fait, de ce point de vue-là. En Pologne, par exemple, en Allemagne, où on le voit en Belgique, les gens qui ont décidé de réduire l'électricité d'origine nucléaire, ou qui n'en ont simplement pas eu, eh bien, à ce moment-là, pour produire de l'électricité, ils vont brûler des hydrocarbures. Alors, ils n'ont pas de problème de déchets nucléaires, ou ils en ont moins que nous, mais derrière, ils ont des gros, gros problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le cas de la France est vraiment spécifique de ce point de vue-là. Donc, c'est important de resituer ça dans ce contexte. Cette étude INUM 2020 de greenity.fr, elle étudie d'où viennent les différents impacts. Pour ça, ils ont utilisé quatre façons de le calculer. Ils ont calculé les dépenses en énergie, ils ont calculé les émissions de gaz à effet de serre, ils ont calculé les utilisations d'eau et l'utilisation de ressources abiotiques, c'est-à-dire en fait des minerais, de la terre qu'il faut retourner. Et ils ont fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas simplement ce qui est consommé quand l'utilisateur utilise les systèmes, mais aussi d'où viennent par exemple les émissions de gaz à effet de serre au moment de la fabrication. Parce que en fait, un produit, ça a un cycle de vie. Au début, on le fabrique, ensuite on l'utilise, et ensuite, idéalement, on le répare pour le faire fonctionner le plus longtemps possible, et enfin, on le recycle. Alors, ils ont étudié les deux phases les plus importantes, qui sont la fabrication et ensuite l'utilisation. Et puis, ils se sont focalisés sur trois niveaux différents du numérique. Le premier niveau, c'est celui qu'on voit, qu'on connaît, parce qu'on l'a dans la main ou sous les doigts, c'est le terminal. Qu'est-ce que c'est un terminal? C'est ce qui vous permet de vous connecter à Internet et d'utiliser un service numérique. Donc ça va être par exemple un smartphone ou bien une télévision connectée. Elles sont presque toutes connectées aujourd'hui. Ou bien un PC portable, ou bien une console de jeu, ou bien un PC de bureau. Et évidemment, tous les écrans qui vont avec. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le réseau qui nous permet de nous connecter au troisième niveau, qui est le data center. C'est là où sont stockés des serveurs qui contiennent nos données et qui font des calculs pour nous. Et dans quasiment tous les usages numériques qu'on a, on utilise ces trois niveaux, ces trois tiers. On utilise un terminal et ce terminal, il se connecte au réseau. Ce réseau a un data center, ensuite à nouveau vers le réseau et vers un autre terminal. Donc rien que le fait d'envoyer un email ou de chatter avec un copain ou une copine sur une messagerie instantanée, j'utilise à chaque fois ces trois tiers, éventuellement plusieurs fois. Et en fait, j'arrive au fait, cette étude INUM 2020, elle démontre qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre, si l'ordinateur ou le terminal est utilisé en France, c'est la fabrication du terminal qui est la plus importante, mais de très très loin, puisque la fabrication du terminal émet 76% des gaz à effet de serre. Et derrière, on entend parfois dire que le réseau, c'est dramatique, ça consomme trop, etc., que les data centers, c'est monstrueux, ça pollue, etc. Et en fait, ben, en émissions de gaz à effet de serre, le réseau, il est de l'ordre de 10% en tout, et 6% pour les data centers. Donc c'est très peu. Donc le vrai problème, le gros levier, celui qu'on a et sur lequel on peut agir avec un maximum d'impact, eh bien, c'est d'éviter la fabrication des terminaux. Si la fabrication des terminaux, c'est 76% des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça implique un certain nombre de choses. Et en particulier, qu'il faut faire durer le plus possible, il faut donc amortir les émissions de gaz à effet de serre de la fabrication le plus longtemps possible, pour éviter de refabriquer trop tôt des terminaux et ainsi réémettre trop tôt des gaz à effet de serre. Donc c'est là le plus gros levier qu'on a, c'est éviter la fabrication des terminaux.
Mais alors comment concrètement est-ce qu'on peut chouchouter nos terminaux, comme dirait Christophe? Tristan nous a donné ses astuces pour y parvenir.
En tant que consommateur, il y a plusieurs choses. Premièrement, je vais donc garder mon terminal le plus longtemps possible. Si mon terminal, c'est un smartphone, je lui mets une coque. Si c'est une télé, j'évite de la changer à chaque Coupe du Monde en me disant « Ah ouais, les images sont encore meilleures ». Moi, franchement, je vous encourage à éviter de passer à la 4K parce qu'en fait, vous allez voir, c'est expliqué dans l'étude, que la télévision, c'est hyper consommateur de ressources et émetteur de gaz à effet de serre quand on la fabrique. Donc, en fait, parmi les terminaux, ce qui pose le plus de problèmes, c'est la télévision ou les écrans, en fait, en général. On peut moderniser, réparer son terminal, changer la batterie, remplacer son disque dur par un SSD qui donne un coup de boost énorme à la rapidité de l'ordinateur. On peut lui rajouter des barrettes de mémoire si c'est nécessaire. Et évidemment, on peut faire le ménage sur son disque dur, supprimer toutes les vidéos débiles qui servent à rien et les emails avec des grosses pièces jointes. Ça déjà, ça peut aider à faire durer son matériel plus longtemps. En tant que professionnel du numérique, là, donc les leviers sont très différents, mais on a toujours autant intérêt à faire durer le terminal. Pour ça, en fait, c'est tout simple. Les terminaux, ils vivent très longtemps et souvent les gens les changent parce que les terminaux ne fonctionnent plus assez vite. Et ça, c'est un peu de notre faute professionnelle du numérique où on a tendance à vouloir en faire toujours plus. Moi, l'exemple qui me hérisse le poil, c'est quand on met des vidéos en fond d'écran, etc. Les vieux terminaux, ils ont du mal, en fait, à fonctionner avec ce genre de choses. Vous voyez, des pages web avec des vidéos en arrière-plan. C'est vrai que ça donne un côté dynamique, mais franchement, ça consomme énormément de ressources. Ça fait ramer les vieux terminaux. Ça pousse les gens à les changer en se disant « Ah ouais, il marche encore, mais il est trop lent maintenant. » Et ça, c'est pas une approche qui est responsable. Et puis aussi, quand on fait des applis, et en particulier des applis mobiles, il faut pas exiger de l'utilisateur qu'il utilise un système d'exploitation moderne avec les nouvelles API. Il faut être compatible, en fait, avec les vieux terminaux. Parce que sinon, on les pousse à l'obsolescence, alors qu'ils fonctionnent encore. Et donc, on fait partie du problème plutôt que de faire partie de la solution.
Avec toutes ces astuces, on vous lance un défi. Gardez votre téléphone plus de 5 ans. D'ailleurs, qui de mieux placé pour parler de la longévité de nos terminaux qu'une spécialiste engagée luttant contre l'obsolescence programmée? On a posé toutes nos questions à Agnès de Fairphone, qui nous expose les démarches de son entreprise.
Il y a un rapport de l'ARCEP qui a été sorti fin 2020 qui dit qu'en gros, l'empreinte environnementale du numérique, elle est, on va dire, principalement sur les terminaux, à 80%, sur la production des terminaux. Elle est aussi sur les réseaux et sur les data centers. Et c'est aussi pour ça que chez Fairphone, on avait envie de faire un téléphone. Parce que le but de Fairphone, ce n'est pas de faire un téléphone mieux que les autres, c'est de faire un téléphone pour prouver que c'est possible de faire un téléphone responsable et pour pousser les autres acteurs industriels à faire la même chose. Et vu justement la prédominance des terminaux dans l'empreinte environnementale globale du numérique, c'est un très bon use case, quoi. C'est un très bon terrain d'application où on peut montrer qu'on peut faire les choses différemment. Je rajouterais peut-être juste une chose sur la mesure de cette empreinte environnementale. Ce que je veux juste souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ce qui sort du téléphone, aux émissions de gaz à effet de serre qui sont émises lors de la production du téléphone, etc. Très bien, c'est un bon moyen de mesure, pas de souci. Mais il y a quand même un institut germanique allemand qui s'appelle l'Institut Wuppertal qui propose une autre mesure que je trouve vachement intéressante. C'est la mesure du MIPS. Et cette mesure-là, elle propose de s'intéresser à toutes les ressources abiotiques, de type minéral, etc., qui sont nécessaires à la production de ce téléphone. Donc, on parle souvent de sac à dos écologique sur la mesure du MIPS. Donc, elle est beaucoup plus globale que la simple mesure des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce rapport de l'ARCEP, c'est peut-être aussi un chiffre qui a été propulsé par l'ADEME en 2022, on est à peu près à 62 millions de tonnes de ressources, quelle que soit la ressource, abiotique, eau, etc., métaux, qui sont utilisées par an pour produire et utiliser tous les équipements numériques.
C'est juste énorme. Et pourtant, nous sommes nombreux et nombreuses à continuer de changer de téléphone tous les ans ou tous les deux ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous pousse à ce renouvellement permanent ? Agnès nous parle de l'obsolescence programmée qui se cache derrière nos terminaux.
En gros, l'obsolescence programmée se matérialise par différentes formes d'obsolescence, on va dire. Ce n'est pas ma définition à moi, hein. C'est la définition sur laquelle on s'accorde. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site de Hop, halte à l'obsolescence programmée. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. On va dire qu'il y a tout un tas d'experts qui s'accordent à dire la même chose. Donc, l'obsolescence programmée, elle peut être tout d'abord fonctionnelle, donc structurelle, liée à vraiment l'appareil sur lequel on s'intéresse, que c'est une télé, que c'est un smartphone, etc. En gros, ça va toucher au cas d'utilisation où cet appareil ne va plus fonctionner parce que sa durée de vie s'est arrêtée à cause d'un composant qui ne fonctionne plus, par exemple. Typiquement, un composant qu'on va pouvoir enlever ou pas enlever. On parle d'obsolescence directe ou indirecte sur cette obsolescence fonctionnelle. Mais en gros, vous avez le processeur de votre ordinateur qui ne marche plus, qui n'est pas réparable, etc. On parle d'obsolescence fonctionnelle, structurelle. Ensuite, vous avez l'obsolescence logicielle. Alors, les gens font souvent la distinction, mais parfois, j'aurais tendance à dire que c'est plus simple de regrouper l'obsolescence fonctionnelle et l'obsolescence logicielle, mais peu importe. Officiellement, on s'intéresse aussi à un deuxième type d'obsolescence qui s'appelle l'obsolescence logicielle et qui concerne principalement les devices électroniques comme les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, et qui va devenir encore plus importante avec l'IoT, l'Internet connecté, Internet des objets. Et donc, en gros, ça va toucher à vraiment mon job chez Fairphone. Le fait que, quand je disais tout à l'heure en introduction, que mon boulot, c'est de faire en sorte d'allonger la durée de vie du support logiciel des téléphones, et typiquement, l'obsolescence logicielle, quand un appareil est dit obsolète d'un point de vue logiciel, ça suppose qu'il n'y a plus de support logiciel de cet appareil au bout de X années, par exemple 2 ou 3 ans, ce qui est à peu près la durée de vie du support logiciel des smartphones aujourd'hui. Vous achetez un téléphone Android d'une marque connue, votre téléphone est parfaitement fonctionnel du point de vue matériel, le haut-parleur marche, l'écran n'est pas cassé, etc. Tout va bien, mais du point de vue logiciel, ça ne marche plus. Vous ne pouvez plus installer votre application préférée parce que vous avez une vieille version d'Android et qu'il n'est pas possible d'installer une nouvelle version d'Android. Ça, on parle d'obsolescence logicielle. Donc, ça touche au support logiciel qui s'arrête. Ça touche à des incompatibilités de version. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué avec l'application. Vous avez votre application préférée qui ne tourne plus sur la version d'Android qui est installée sur votre téléphone, ou encore un exemple plus classique, vous avez une application bancaire qui requiert un niveau de sécurité adéquat pour sécuriser une transaction bancaire sur votre site bancaire. Eh bien, cette application bancaire ne va évidemment plus marcher sur une version d'Android qui est plus maintenue par Google, la version 8 par exemple. Donc, si votre téléphone il est bloqué sur une version 8, parce que justement, votre fabricant de téléphone n'a pas fait l'effort de mettre à jour une nouvelle version d'Android sur ce téléphone-là, vous ne pouvez plus utiliser votre application bancaire. Et ça va bien vous embêter. Parce que si vous ne pouvez plus sécuriser vos transactions bancaires avec votre téléphone, vous allez appeler votre banque, vous trouvez un moyen alternatif, mais ça va être compliqué. En gros, aujourd'hui, le numérique, et je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'est bien ou pas, mais le numérique s'appuie de plus en plus sur des apps. Et ces apps, parfois, elles sont incompatibles avec la version de l'OS, la version du système d'exploitation Android, par exemple, qui est installée sur les téléphones. Donc là, on parle d'incompatibilité. Et l'incompatibilité fait partie de l'obsolescence logicielle. Et enfin, on a un dernier type d'obsolescence, dite psychologique, culturelle, plutôt esthétique. Et en gros, ça consiste à dire que votre téléphone, vous le trouvez, ou votre ordinateur, vous le trouvez un peu démodé. Je cite souvent l'exemple du téléphone qui se plie, le foldable smartphone, qui, je trouve, est une fonctionnalité complètement inutile. Ça, c'est mon point de vue. Mais peut-être que mon voisin qui est à côté de moi dans mon bureau va trouver que c'est génial d'avoir un téléphone qui puisse se plier et que son téléphone qui a simplement 2 ans, vu qu'il ne se plie pas, il est un peu démodé. Donc, il va vouloir le changer, son téléphone. Alors que tout fonctionne. Du point de vue logiciel, ça peut fonctionner. D'un point de vue matériel, ça peut fonctionner. Mais on va avoir ce comportement de consommation qui va juger qu'un téléphone un peu trop vieux est démodé. Et on est aussi, et là j'aimerais bien toucher un point de vue qui m'intéresse, c'est pas que le consommateur qui est bête et méchant et qui veut tout de suite avoir des nouvelles features, ce qui ne sert à rien. Il y a aussi l'approche systémique qui, à mon avis, est importante à souligner. C'est pas que la faute de l'utilisateur, de l'utilisatrice, il et elle sont poussés à avoir ces comportements-là. Les campagnes promotionnelles, les opérateurs qui vous poussent à changer votre téléphone au bout de X mois pour avoir quelque chose de nouveau, etc. Tout le marketing, toute la publicité qui est faite autour du fait que ce serait trop bien, trop classe d'avoir ce téléphone pliable, va pousser l'utilisatrice ou l'utilisateur à avoir ce comportement de consommation extrême. Donc voilà, obsolescence fonctionnelle, obsolescence logicielle, obsolescence esthétique ou psychologique, ce sont les grandes catégories d'obsolescence.
En tant qu'utilisatrice d'appareils numériques, on se sent plus que concernée. On a voulu savoir comment on pouvait limiter notre consommation numérique. Agnès nous éclaire sur le choix de nos terminaux.
Alors bon, la première étape déjà, c'est même si ça vaut ce que ça vaut, la première étape, ça peut être d'essayer de regarder quand même ce qui est à disposition dans votre magasin. Enfin, déjà, regarder l'indice de réparabilité, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier truc, de s'intéresser à ça. Parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à la durabilité de l'appareil, quoi. On va être intéressé non pas à la nouvelle feature du fait qu'il se plie, mais on va aller plus loin et on va vouloir avoir un appareil qui dure. Voilà, donc essayer de se limiter, de fighter notre goût pour l'obsolescence esthétique et culturelle. Et après, au-delà des indices et de la note qu'on voit à la FNAC ou chez Darty, l'idée, ce serait évidemment d'aller un peu plus loin sur ce qui est à notre disposition en tant que consommateur pour faire un choix de marque. Donc, Fairphone, on fait beaucoup d'open publications, donc on publie des blogs, on publie des impact reports, on vous explique ce qu'on fait, justement, ces fameux programmes, on explique pourquoi c'est important de bosser avec les mineurs artisanaux. Donc, évidemment que ça, c'est le choix ultime, quoi. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est d'aller intéresser les consommateurs, pousser les consommateurs à aller s'intéresser à la marque qui est derrière le téléphone que vous voulez acheter. Si jamais vous ne trouvez aucune information sur ce qui se passe derrière la supply chain, et ben c'est déjà un signe qu'il ne doit pas se passer des choses chouettes, quoi. Grosso modo. Donc ça, c'est la première chose, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire. En tout cas, au moins de vérifier si c'est des choses qui sont publiées ou pas. Et après, ça peut être aussi de changer de mode de consommation. Je parlais de Common tout à l'heure, donc la coopérative qui soutient le fait de faire, par exemple, de la location d'appareils électroniques. Donc plutôt que d'acheter un appareil, pourquoi on ne passerait pas par des coopératives où je ne suis pas obligée d'acheter un téléphone, je vais le louer à travers leur service. Donc j'arrête de mettre dans ce délire ultra-consumériste d'acheter des téléphones tous les ans ou tous les deux ans. Je vais demander à Common de me choisir, ils n'ont pas 36 modèles, ils en ont un ou deux, ils ont des cross-calls, des Fairphone, voilà. Sur les laptops, ils en ont aussi quelques-uns. Et donc je vais passer par eux, je leur fais confiance et je vais louer un appareil à travers leur service. Et c'est eux qui vont prendre en charge la réparabilité, c'est eux qui vont me guider aussi sur mon utilisation responsable. C'est des gens qui poussent aussi la sensibilisation à nos datas. Est-ce que mes datas, elles sont bien protégées, etc. Donc là, on est plutôt dans une démarche un peu plus poussée de « je change mon habitude de consommation ». Non seulement je vais faire attention à ce que j'achète, mais en plus, je ne vais plus acheter pareil. Et potentiellement, plus acheter pareil, ça peut être plus acheter. Ça peut être juste loué, quoi.
Avant de choisir un nouveau téléphone, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire. Agnès nous a expliqué la marche à suivre quand on se retrouve confronté au potentiel renouvellement de nos terminaux. Elle nous donne quelques critères pour évaluer si on a vraiment besoin d'un nouveau portable et ce que l'on peut faire dans le cas contraire.
Essayez voilà, de se démarquer un peu de l'obsolescence esthétique. Donc même si votre téléphone il est un peu abîmé, voilà, un petit coin qui est un peu corné, ce n'est pas très grave, quoi. Au pire, on passe dessus. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Si votre téléphone il est fonctionnel, qu'il est toujours à jour du point de vue sécurité, ça j'insiste beaucoup sur la partie logicielle. Un téléphone qui n'a pas de mise à jour logicielle, c'est très dangereux parce que ça veut dire que vos datas personnelles sont mises à mal. Vous pouvez être attaqué, vous pouvez avoir des virus, vous pouvez avoir une personne malveillante qui va traquer vos datas. Donc, voilà, il y a quand même des choses à vérifier sur l'état de votre appareil. Mais s'il est encore fonctionnel, s'il a des mises à jour de sécurité, si du point de vue matériel, il n'est pas complètement détérioré, il faut le garder. Ça, c'est le premier acte responsable. Gardez vos appareils quand vous pouvez les garder. Et ne pas changer d'appareil si jamais vous ne checkez pas les box que je viens de citer, à savoir votre appareil est sécurisé et il n'a pas de gros pet matériel. Après, si vous tombez dans ces cas de figure-là, il y a un truc qui est cassé et le logiciel ne semble plus marcher, essayez de le réparer ou de le faire réparer. Première démarche responsable, vous allez essayer de le faire réparer. Moi, je dis souvent que les repair shops, c'est très bien en fait. Moi, j'ai rien contre. Si vous habitez dans une ville de taille correcte, vous en avez beaucoup des repair shops. Mais vous avez aussi des services comme Common, où vous n'avez même pas à vous préoccuper de la réparation dans un repair shop. C'est eux qui vous procurent ces services de réparabilité. Donc, si jamais vous avez la volonté de le changer, s'intéresser à cette démarche-là, ça c'est vachement important, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une durée seuil? Disons que ça serait super bien qu'on ne pense pas à changer son appareil avant au moins 5 ans, mais idéalement 10, si jamais votre appareil le permet, quoi. Si je parle des smartphones par exemple. En fait, alors nous sur le Fairphone 2, la semaine dernière, on a sorti une mise à jour d'Android 10 sur le Fairphone 2, ça va nous porter à 7 ans le support de l'appareil, donc 7 ans, de toute façon dans le monde Android, personne ne fait mieux, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, on arrive à ce monde-là où par défaut, dans le monde Android, tout le monde fasse du 7 ans, quoi. Mais pourquoi pas plus, quoi? Pourquoi pas plus? On a signé une campagne récemment sur le droit à la réparation, etc., qui essaie de promulguer un droit à 10 ans. Et sur les ordinateurs, évidemment, qu'on est sur des durées plus grandes. Faire attention à vraiment aux critères qui vous permettent de juger si votre appareil va durer longtemps ou pas. Donc, ces indices-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très bien. Indice de réparabilité, durabilité, c'est mieux que rien, on va dire. Parce que ça vous permet de comprendre en un coup d'œil des choses compliquées, quoi. La disponibilité des pièces détachées, c'est pas facile d'avoir ce genre d'informations facilement. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser ces indices-là. Donc, les questions qu'il faut se poser avant de changer, c'est si vraiment je veux changer, voilà les critères qu'il va falloir que je regarde, quoi. Est-ce que je vais pouvoir allonger la durée de vie de mon téléphone? Et si c'est trop compliqué pour vous, si c'est trop galère de choisir un truc, vous n'y comprenez rien, eh bien, des changements de comportement de consommation, comme de passer par des coopératives de location, c'est aussi très bien.
Comme quoi, on n'a pas toujours besoin d'acheter un nouveau téléphone. Mais dans le cas où ça arrive, que fait-on de l'ancien ? Agnès nous a éclairé sur quelques pistes pour donner une seconde vie à nos vieux appareils numériques.
Qu'est-ce qu'il faut faire d'un téléphone qui est usagé? Donc, il y a les points de collecte, il y a le reconditionnement. Donc, vous pouvez essayer de revendre votre téléphone à travers des solutions existantes, des plateformes existantes. Si vous allez sur Back Market, vous allez avoir des options possibles. Mais vous pouvez aussi utiliser certaines solutions plus associatives. Il y a des associations qui existent locales, hein, qui vous permettent de bénéficier d'un moyen très simple de donner votre téléphone pour qu'il soit proprement reconditionné. Back Market, je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est déjà une bonne première approche, mais je veux dire, on peut la pousser, cette approche-là. Fairphone, on a aussi ce genre de truc, hein. Vous pouvez, si jamais vous avez vos vieux téléphones dans votre tiroir, bah, vous pouvez nous les envoyer, on vous donne un petit discount, etc. Donc, Back Market, Fairphone, c'est bien d'utiliser ce genre de truc. Mais le local est bien aussi, c'est ça que je veux dire. Le local, c'est aussi bien parce que parfois, ça évite des allers-retours inutiles de coûts de transport, ce genre de choses, quoi. Et dans les villes, il y a quand même beaucoup de solutions qui peuvent marcher, quoi. Que ce soit à travers des associations ou que ce soit à travers une déchetterie locale aussi. Il y a des déchetteries locales. Alors, c'est vrai qu'il y a des enquêtes qui prouvent qu'elles ne font pas toutes le même boulot, mais sur le papier, c'est aussi satisfaisant.
On doit vous avouer que, comme beaucoup d'entre vous, on mettait le reconditionné sur un piédestal. Sauf que cette solution a ses limites. Agnès nous explique pourquoi.
Moi, je ne blâme pas Back Market en tant que tel, hein, parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir des solutions de téléphone reconditionné, etc. Voilà, ça c'est sûr. Après, et c'est même les premiers à le dire, la problématique du reconditionné, à l'heure actuelle, et c'est pas qu'en France, c'est un peu partout pareil, c'est la fameuse obsolescence logicielle. Quand on va acheter un reconditionné, souvent, quand on fait l'achat de manière un peu rapide, ou qu'on est un peu novice en la matière, et je ne blâme pas non plus les consommatrices et consommateurs là-dessus, bah on va regarder de quand il date, s'il n'est pas trop vieux, c'est déjà un bon critère. On va regarder potentiellement voilà, la garantie qui est offerte avec, le fait d'avoir ces nouvelles features, la qualité de l'appareil photo, voilà, des choses très matérielles, des choses très liées à la partie matérielle du téléphone. La note de l'appareil photo, est-ce qu'il a un bon appareil photo, tout ça. Pourquoi pas, hein, c'est très bien, je ne suis pas contre ça. Mais jamais personne, ou très rarement, va s'intéresser par défaut à la partie logicielle. Est-ce que votre téléphone que vous achetez en mode reconditionné a une version d'Android récente? Et encore plus important, est-ce que ce téléphone-là que vous êtes sur le point d'acheter sur Back Market, c'est possible d'avoir une mise à jour Android plus récente? Déjà, l'information, elle est compliquée à avoir. Et en plus de ça, toute la logique de savoir ce pourquoi c'est important, elle est compliquée à comprendre aussi. Je citais tout à l'heure dans le podcast la problématique de « j'ai mon application bancaire, tiens, elle ne va plus marcher sur la version Android 8 de mon téléphone parce qu'Android 8 n'est plus maintenu par Google ». Bon, très bien. Et bien là, vous avez un cas d'obsolescence logicielle qui peut arriver… On ne sera pas sur Android 8, on sera sur des versions d'Android plus récentes, mais qui peut arriver à votre téléphone si vous l'achetez en reconditionné, parce que potentiellement, votre téléphone, vous allez le recevoir de Back Market, il marche très bien d'un point de vue matériel, mais potentiellement, et ça, vous ne le savez pas facilement, mais le constructeur qui est derrière ce téléphone-là va arrêter le support logiciel dans 6 mois. Et donc ça, vous ne le savez pas, mais vous avez les boules, parce que 6 mois après, votre téléphone est plus complètement fonctionnel parce que cette application bancaire s'installe plus parce qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité Android sur votre téléphone. Et ça, c'est quelque chose de méconnu. Et donc, de manière un peu caricaturale, ne me prenez pas pour quelqu'un qui défend Apple, hein, mais souvent je dis, pour éviter d'expliquer tout cette logique un peu compliquée et tout ça, même si j'aime bien l'expliquer, je dis, bah voilà, tu vas chez Back Market, c'est pas plus mal d'acheter un Apple, quoi. Parce qu'au moins, avec Apple, Apple fait un support logiciel très bien, très long. Apple, vous avez les systèmes iOS sont mis à jour sur, non pas 2 ou 3 ans, mais plutôt 5-6 ans, voire 7. Donc, si vous voulez pas trop prendre de risques, encore une fois, ne pensez pas que je fais de la pub pour Apple, mais au moins c'est clair, quoi. Apple, c'est vérifiable, leur support logiciel est très bon et vous n'allez pas vous retrouver bloqué au bout de 6 mois, 1 an, à avoir ce problème de mise à jour de sécurité qui ne se fait plus, quoi. Et sur le monde Android, bah, c'est vachement plus compliqué à savoir, quoi. Les études sont peu nombreuses. Les études, on va dire, impartiales qui peuvent vous expliquer si Samsung fait des mises à jour plus longues que Huawei, etc. Mais bon, voilà, ça, c'est plus compliqué à savoir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, ouais, je suis pas contre le reconditionné. Je dis juste que c'est une grosse problématique qui est vraiment méconnue et sur laquelle il faut être très vigilant. Donc, typiquement, je reviens tout le temps à mon modèle de location, la Via Common, etc. Au moins, ces gens-là, ils s'occupent de ça, quoi. Si vous y connaissez rien, si c'est trop compliqué, si voilà, eh ben, il y a des solutions comme Common qui sont clés en main. C'est des experts. Ils savent très bien les produits qui font des mises à jour long terme ou pas. Ils ont des Fairphone, ils n'ont pas que des Fairphone, ils ont aussi des CrossCode. Enfin, ils ont d'autres marques qui vous permettent de garantir que votre téléphone, il va durer, qu'il sera maintenu au niveau logiciel, etc. Je vous parie tout ce que vous voulez, que vous êtes dans la rue, et vous demandez à des gens, ouais, alors c'est quoi un acte responsable en termes d'achat, bah, tout le monde va vous dire, bah, j'ai du reconditionné, c'est cool. Personne va vous dire, bah, tiens, je passe par une coopérative de location, quoi. Alors que perso, je pense que la location est beaucoup plus responsable que d'acheter du reconditionné, au final. Et je ne condamne pas Back Market, quoi.
On espère vraiment voir les choses évoluer à ce niveau-là, car ça aura un impact décisif côté numérique. D'ici là, on a demandé à Agnès vers quoi devrait tendre notre consommation numérique dans le meilleur des mondes.
Tech won't save us. La technologie ne nous sauvera jamais. Vraiment, sincèrement. Je pense qu'une technologie différente, une technologie plus responsable peut exister. Ça, c'est cool. Ça fait partie de mes rêves. Mais concrètement, ce n'est pas que mes rêves parce que je le fais au quotidien chez Fairphone. Donc, c'est, voilà, heureusement, ce n'est plus mes rêves. C'est la réalité. Mon rêve, ce serait qu'il y ait beaucoup moins de consommation numérique. Bah, je veux dire, j'adore la science-fiction, mais en fait, j'en ai marre, tous ces bouquins de science-fiction où on nous bombarde d'IoT de partout, qui servent à rien, etc. Bon, bah, j'ai pas envie, forcément, c'est pas mon trip, la campagne, j'ai pas envie d'aller vivre à la campagne plus que ça. Hein. Donc, j'ai pas envie d'un truc complètement sobre où j'ai plus du tout accès à du device et tout ça. Mais mon rêve, ce serait une consommation vraiment beaucoup plus raisonnée, qu'on soit beaucoup moins entouré d'appareils numériques, et qu'on puisse avoir plus facilement des modes de sociabilisation, des modes de rencontre entre êtres humains qui ne passent pas par le numérique. C'est ça mon rêve.
Nous avons regroupé pas mal d'actions et de bonnes pratiques numériques dans cet épisode. L'idée, c'est que vous choisissiez celles que vous pouvez et voulez mettre en place. On vous recommande de les prioriser par ordre d'importance et de faisabilité. De faire votre propre plan d'action avec des objectifs atteignables, c'est toujours plus motivant. Commencez peut-être par le plus simple pour vous. Le plus important étant d'enclencher votre démarche numérique responsable. Au fur et à mesure, vous pourrez incorporer la suite, jusqu'à devenir un expert ou une experte du numérique responsable. On vous invite évidemment à vous questionner sur vos besoins dans toutes vos prochaines décisions de renouvellement de vos appareils numériques et électroniques. C'est vraiment ça la priorité. Dans le prochain épisode, on se focalise sur les métiers du web. Vous travaillez dans le numérique ? Que ce soit dans la conception, le développement de sites internet, la communication web ou encore le marketing digital, vos actions ont encore plus d'impact. Car vous êtes en charge de produire du contenu web et vous montrez l'exemple à votre clientèle. Donc restez connectés, cet épisode est fait pour vous. Merci beaucoup.
Cette série de podcasts fait partie du projet éthique de l'agence Hippocamp. Notre mission, rendre le web et l'entreprise plus éthiques. Nos 3 objectifs, rendre nos pratiques encore plus humaines, renforcer notre sensibilité écologique et opter pour une gouvernance transparente. Chaque trimestre, on s'intéresse donc à un objectif et une initiative qu'on veut mettre en place pour y répondre. Retrouvez toutes nos initiatives sur notre blog Ebullition, un outil pour la croissance numérique éthique des entreprises.